Bon réveil à tous, il est 8h. Et à la une, l'enquête d'Europe 1 sur une candidature présidentielle. Éric Zemmour structure ses soutiens, récolte des dons, rencontre déjà des maires. Même s'il n'est pas encore fermement décidé, il se tient prêt à se lancer pour 2022. Nos informations dans un instant. En Algérie, comme un parfum d'ancien régime, arrestation d'opposants et de journalistes à 48 heures d'élections législatives contestées. Nous serons en direct à Alger avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis le nouvel album de Clara Luciani, il s'appelle Cœur et on y entend aussi Julien Doré. C'est une recommandation pop qu'Europe 1 vous fait à quelques semaines de cet été déconfiné. Le journal de Roland Garros à suivre après le journal et l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors que tout va trop vite, alors que le climat politique hystérisé inquiète, prenons le temps ce matin d'écouter une voix rare et précieuse, celle de la philosophe Elisabeth Badinter. Rendez-vous 8h15.
A tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous, François Geffrier, bonjour.
Bonjour. Imagine-t-on un homme condamné pour provocation à la haine, être candidat à l'Élysée, autrement dit vouloir devenir le président de tous les Français. Europe 1 s'arrête ce matin sur l'hypothèse Éric Zemmour, un embryon de candidature que craint déjà Marine Le Pen. La présidente du RN l'a appelé à ne pas affaiblir, dit-elle, le camp national. Reste que le chroniqueur et écrivain se prépare, consulte et construit une démarche électorale.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1, au-delà des prises de position publiques d'Éric Zemmour sur l'immigration, sur l'islam ou encore sur le féminisme, vous nous révélez ce matin qu'il est prêt à se lancer.
Effectivement, Éric Zemmour se prépare activement, il consulte, il a même commencé à lever des fonds. Son premier cercle, une petite équipe d'une dizaine de personnes, multiplie les rendez-vous en France avec des chefs d'entreprise, des industriels qui veulent financer sa campagne. Des dons qui, chaque semaine, convergent vers une structure, l'association des amis d'Éric Zemmour. Avec de nombreux dons de 7500 euros, le plafond autorisé. Je peux vous révéler par exemple qu'Éric Zemmour se rendra le 25 juin à Londres, toujours pour lever des fonds, comme l'avait fait Emmanuel Macron pour sa campagne de 2017. L'éditorialiste peut aussi compter sur la mobilisation d'un collectif baptisé Génération Z, qui revendique 1300 membres et organise désormais régulièrement des campagnes d'affichage Zemmour président. Et puis comme Emmanuel Macron, Éric Zemmour fait lui aussi un tour de France en ce moment, à bas bruit, toujours en fin de semaine. Il multiplie les déplacements dans les grandes villes et les campagnes, où il rencontre des maires, car ce sera son véritable premier test politique, parvenir à réunir plus de 500 signatures, là conditions pour être en mesure de se présenter à la magistrature suprême.
Alors, il y a les associations de soutien, il y a les collectes de fonds, bientôt les parrainages. Est-ce qu'Éric Zemmour a une date d'annonce de candidature ?
Eh bien non, il a plutôt une saison en tête, l'automne, car il veut d'abord savoir qui sera le candidat de la droite. Et c'est à ce moment-là que les Républicains devraient désigner leur candidat. En fait, si certains l'imaginent comme un candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, lui, se voit comme le véritable représentant de la droite classique.
Les informations de Louis Dragnel, enquête qui est déjà à retrouver sur europe1.fr.
1 milliard de doses de vaccins promises à 92 pays pauvres, annonce des dirigeants du G7 qui se réunissent en sommet d'aujourd'hui à dimanche à Carbis Bay au Royaume-Uni sur la côte de la Cornouaille. Il s'agira de partager certaines doses et d'en financer d'autres.
Une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, annonce hier soir d'Emmanuel Macron.
Oui, ce sont 5100 de nos soldats qui sont concernés. L'opération Barkhane, qui dure depuis 7 ans, va s'arrêter en tant que telle. Aude Leroy, qu'est-ce qui se profile concrètement ?
Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'abandon du Sahel par la France, mais bien une transformation de l'actuelle opération extérieure au profit d'une présence militaire française plus souple qui continuera, avec d'autres pays européens, à appuyer la mission de l'ONU ou les forces armées africaines. La décision a été prise en Conseil restreint de défense il y a un mois et demi. La France renonce au contrôle de zones qu'elle effectuait seule sur un territoire grand comme l'Europe. En revanche, elle va continuer de manière autonome la lutte antiterroriste en s'appuyant sur ses forces spéciales. C'est l'opération Sabre et elle accompagnera toujours la formation des soldats du G5 Sahel qui regroupe les 5 principaux pays de la région. Alors concrètement, ce qui devrait se passer, c'est une fermeture de certaines bases en commençant par le nord du Mali puis en redescendant vers le sud, peut-être dès cet été. La France pourrait diviser au moins par 2 ses effectifs au Sahel d'ici la fin 2022.
Aude Leroy, spécialiste des questions de défense d'Europe 1, nous restons en Afrique mais plus au nord, en Algérie, pays dont les députés siègent dans ce qui s'appelle l'Assemblée populaire nationale. Reste à savoir si le terme populaire est approprié. Des élections législatives anticipées ont lieu demain. Le pouvoir cherche à renouveler sa légitimité, mais le scrutin est contesté par le HIRAC, ce mouvement de manifestation né en 2019 et qui a notamment abouti au départ d'Abdelaziz Bouteflika.
Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en direct ce matin d'Alger. Un fait marquant dans cette campagne, c'était tout juste hier soir, des arrestations d'opposants, de journalistes, notamment Khaled Brahreni, l'ancien correspondant d'Europe 1 dans le pays.
Oui, ils ont tous été interpellés quasiment au même moment à plusieurs endroits de la ville. En tout, on parle d'une dizaine d'opposants arrêtés hier dans tout le pays. Alors j'ai contacté la mère de Khaled Brahreni qui a pu parler à son fils au téléphone dans la nuit. Il lui a confirmé qu'il était détenu à la caserne militaire Antar, c'est-à-dire au siège des services de renseignement intérieur. Son avocate, Zoubida Assoul, est également présidente du parti politique UCP, l'Union pour le Changement et le Progrès. Elle aurait pu se présenter aux élections, mais comme beaucoup d'autres partis d'opposition, dans ces conditions, elle a préféré boycotter le scrutin.
Aujourd'hui, nous avons 217 détenus quand même d'opinion, des intellectuels, des journalistes, des jeunes, des étudiants, des femmes, des vieux, des vieilles. Politiquement, je ne peux pas m'associer à une telle mascarade parce que mes compatriotes sont encore en prison, parce qu'un avocat est en prison, parce qu'il était l'avocat d'autres hirakistes.
Mathieu, dans ce contexte, est-ce que les Algériens qui veulent du changement peuvent se saisir de cette élection ?
Eh bien, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser. Alors on voit bien sur les murs blancs de la ville quelques affiches soigneusement alignées. Ce sont d'ailleurs plusieurs fois les mêmes visages que l'on retrouve un peu partout. Mais dans les rues d'Alger, ces élections sont presque un non-événement. Beaucoup d'Algériens sont touchés par ces arrestations. Et la sensation que rien n'a changé en 2 ans décourage la plupart de ceux que j'ai rencontrés d'aller voter.
Non, je vais pas voter parce que ça m'intéresse pas et je sais qu'il n'y aura pas un changement en Algérie. Je veux pas savoir, je cherche pas à savoir ou ça m'intéresse pas.
Est-ce que vous irez voter ?
Non. Je vote pas. Impossible de vote.
Pourquoi ?
Mon frère, il est en prison, il est détenu d'opinion. Attrapé le jour de son anniversaire, il avait 19 ans.
Alors le pouvoir de son côté considère que les manifestations du Hirak n'ont plus lieu d'être puisqu'un nouveau président a été élu et que de nouvelles élections législatives auront donc lieu demain. Aujourd'hui, donc vendredi, jour traditionnel de manifestation, on verra si les autorités laisseront les Algériens descendre dans la rue à quelques heures d'un vote que le pouvoir espère comme étant une étape de plus vers la normalisation du pays.
En direct d'Alger, notre envoyé spécial pour Europe 1, Mathieu Bock.
Il est 8h07 sur Europe 1 et ça y est, c'est ce soir, enfin 21h, le coup d'envoi de l'Euro de football.
Turquie, Italie, match d'ouverture à Rome où nous étions dans le journal de 7h. Il aura fallu patienter un an pour voir cette compétition, toujours officiellement baptisée Euro 2020. Décalage inédit, les sponsors, les campagnes de pub, tout a dû être reporté. Aurélien Fleureau, avec quel impact économique ?
Alors l'incertitude liée à la situation sanitaire a retardé beaucoup d'investissements, des campagnes calées d'habitude de longs mois à l'avance n'ont été décidés que ces dernières semaines, mais tous les sponsors sont restés et comme toujours, l'impact économique va se mesurer grâce aux dépenses de consommation. Les bars espèrent attirer un maximum de monde et puis il y a bien sûr les produits dérivés. Selon une étude ING, un Français sur 5 a prévu de dépenser en moyenne 99 euros en maillot, casquette ou décoration. Un engouement pour le maillot des champions du monde, c'est ce qu'anticipe Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui représente les commerces et les marques du secteur.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, il y a eu cette frustration de beaucoup de supporters qui n'avaient pas trouvé ce fameux maillot 2 étoiles à l'époque. Et puis quelques personnalités fortes sur des maillots qui se vendent bien, évidemment Mbappé, Griezmann, mais aussi Benzema. On pense que cette année, ça va être encore plus fort que d'habitude.
Et preuve qu'un euro de foot, cela reste très prisé. Un annonceur qui voudra être présent avec un spot pendant la mi-temps d'une éventuelle demi-finale avec les Bleus sur TF1 devra débourser 20% de plus qu'en 2016.
Aurélien Fleureau. Et à propos de l'économie du football, encore une affaire de cyberattaque. Cette fois, c'est l'éditeur américain de jeux vidéo EA Games qui est touché. Le code source, le code informatique de certains de ses titres, notamment le célébrissime jeu de foot FIFA 21, a été dérobé.
Et toute l'info sur cet Euro qui démarre, c'est à 8h30, le journal de l'Euro chaque matin. La culture à présent, après 2 victoires de la musique, un premier album vendu à 200 000 exemplaires, c'est le retour de Clara Luciani.
Avec son album Cœur, 11 titres que l'on peut qualifier de pop et amoureux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Angèle Châtelier, la spécialiste musique d'Europe 1, qui a pu interviewer Clara Luciani.
C'est un peu l'amour sous toutes ses formes, ça peut être aussi l'amitié.
comme celle que vous partagez avec Julien Doré qui s'est invité sur cet album.
C'est super agréable de pouvoir matérialiser cette belle histoire d'amitié et de pouvoir l'immortaliser aussi. Comme ça, c'est comme une espèce de photographie. Joue-moi quelque
chose de beau. Vous évoquez votre public aussi, votre manque des concerts.
C'est ce que raconte Respire encore, par exemple.
Mais toutes les chansons ne sont pas joyeuses. Cœur, par exemple, qui ouvre l'album, évoque les violences conjugales.
C'est un sujet extrêmement sensible, mais il me semblait nécessaire de l'évoquer.
Enfin, Clara Luciani, on entend énormément de basses dans cet album. C'est un peu votre patte.
On lui a fait une place d'honneur, je crois encore plus que sur le premier album. Mon papa est bassiste, donc je pense que c'est de là que vient mon obsession. On n'épousait pas les chanteurs, c'est voulant fermer le vent. C'était pas bien un papillon,
c'est mettre en cage un lion. On n'épousait pas les chanteurs. Le chanteur, c'est l'un des titres de ce nouvel album, Cœur, signé Clara Luciani.
Le journal signé François Geffrier sur Europe 1, il est 8h10. Direction la Porte d'Auteuil dans quelques secondes, le journal de Roland Garros.